l'antre du nazisme, le siège de l'horreur. Pendant plus de 10 ans, cette ville s'est construite autour d'une idéologie nauséabonde qui coûta la vie à des millions de personnes innocentes. Leur crime était d'être différent et surtout d'avoir été désigné par un certain Adolf Hitler comme les boucs émissaires de toutes les difficultés rencontrées par les Allemands. Oui, mais voilà, l'issue de la Deuxième Guerre mondiale était arrivée et Berlin était tombé aux mains des soldats de l'armée rouge le 8 mai 1945. Hitler, à cette date, était déjà mort et tout un régime s'était effondré avec lui. Des mois plus tard, tout près de l'immense stade édifié à la gloire des nazis, une cour de justice des plus spéciales est réunie. Elle est composée de juges issus des nations qui ont mis à bas Hitler et les siens. Et face à eux, se trouveront d'ici quelques minutes les pires crapules que le monde ait pu enfanter. Parmi eux, Göring, Van Papen, Keitel, Ribbentrop, Speer. Ces noms, à l'époque dans laquelle nous nous apprêtons à nous transporter, sont synonymes d'horreur et de terreur. La salle est bondée. Dans quelques petites minutes, la cour va faire son entrée. Plus de 400 journalistes venus du monde entier ont fait le déplacement, calepin à la main et casque audio sur les oreilles. En effet, des traducteurs en 4 langues vont permettre à tous de pouvoir se comprendre. Les accusés, eux, ne sont pas encore là. Le box qui s'apprête à les accueillir contient des bancs tapissés de velours vert. Un velours froid comme la mort. C'est du moins l'impression que peut en avoir Alain Lachaud. Ce jeune reporter a été dépêché par un journal parisien pour suivre ce retentissant procès qui marquera l'histoire. Le jeune homme, troublé par la tension palpable et la présence d'autant de personnes autour de lui, enlève sa veste et la dépose machinalement sur son dossier. Il transpire, alors même que l'hiver est en train de s'installer. Son fedora à ses pieds, l'homme de presse prépare ses notes et règle son casque. Des murmures indiquent que les juges vont faire leur entrée. Dès qu'ils auront passé le pas de cette porte, Clio, la muse de l'histoire, enveloppera de ses ailes ce moment qui figurera bientôt dans tous les manuels de classe. C'est l'heure absolue, implacable, des règlements de compte. Mais les alliés ont appris de leurs erreurs. Il n'y aura pas d'humiliation comme Versailles a pu en être le théâtre en 1919, non. Non, cette fois, c'est Dame Justice qui tranchera. Avec sévérité, mais impartialité. Alain Lachaud prend tout de suite conscience qu'il est en train de vivre un moment grave. Nous sommes le 20 novembre 1945. L'atmosphère est lourde, pesante, au milieu d'un tribunal qui n'a rien d'ordinaire. Il est 10h, c'est l'heure H de mon histoire. Une heure plus tôt, noyé au milieu de centaines de journalistes, Alain Lachaud, heureusement plus grand que les autres, était embarqué en direction de la salle d'audience numéro 6. C'est là, entre ces 4 murs, que tout allait se décider. C'est l'avenir du monde qui se jouait durant cette instruction d'anthologie comme jamais il en avait été organisé. Dès sa descente du train venant de Paris, le journaliste avait immédiatement été saisi par l'ambiance d'apocalypse qui pouvait régner à Nuremberg, ville impériale, mais aussi cité du nazisme, berceau des lois anti-juives et des nombreux rassemblements durant lesquels les bras droits en masse s'étaient levés et tendus. La Bavaroise s'était érigée en QG d'Hitler depuis de nombreuses années, et elle en avait depuis payé le prix. Elle n'est plus que ruine et pleurs. Des pierres roulent sur le sol humide. Des toitures sont arrachées par le souffle des bombes et laissent les habitants démunis. Voilà le panorama qui s'offre aux yeux de la horde de gens de presse venus du monde entier. Il faut dire que le régime nazi fascine autant qu'il terrifie et que les peuples vainqueurs, dans une curiosité teintée d'effroi, attendent des réponses à leurs multiples questions. Comment l'humanité a-t-elle pu en arriver là ? Voilà comment Alain Lachaud a commencé sa prise de notes dans son petit carnet noir. Son stylo plume a bavé et les lettres qu'il a tracées en tremblant ouvrent le bal de l'horreur. Car ouais. Oui, les semaines qui vont suivre, pour lui comme pour tous les autres, risquent bien d'être parmi les pires, mais aussi les plus importantes de leur carrière respective. Toute la ville de Nuremberg n'est qu'une immense ruine, à l'intérieur de laquelle malheur et misère se côtoient. Comme plongé dans une réalité parallèle, fantasmagorique, au regard de l'évolution du conflit de ces 18 derniers mois, Alain Lachaud, les pieds dans la poussière et les gravats, déambule dans la plus grande avenue de cet ancien symbole nazi, dont les cendres sont encore chaudes. Un peu plus loin, au milieu des trous béants qui forment le reste d'anciens bâtiments, trône le palais de justice, directement relié à une prison. C'est là que tout va se décider, et comme un clin d'œil du destin. C'est l'une des seules administrations qui a résisté aux multiples bombardements. La justice triomphante, envers et contre tout, envers et contre le mal absolu. Je ne dois pas oublier de la noter, celle-là, se dit l'homme de presse, en pensant à sa précédente formule. Le voilà qui parvient à entrer dans la fameuse salle d'audience 600 qui, dans un brouhaha étourdissant, se garnit de ses occupants. Procureurs et juges, serrés en rang d'oignons, se tassent les uns contre les autres. Ils parlent entre eux dans un micmac de langues oscillant entre l'anglais et le russe. Issus des quatre puissances alliées victorieuses, ils ont l'énorme charge de faire respecter la justice dans ce procès qui ne ressemble assurément à aucun autre. Les chiffres qui ont été annoncés par les dignitaires organisateurs de cette incroyable rencontre entre les hommes et la divine justice, après des années d'une violence sans précédent, sont hallucinants. On prévoit un peu plus de 300 000 dépositions, de 6 500 pièces à conviction, ou 42 volumes d'archives. Tout ceci est à peine croyable et illustre parfaitement ce qui se prépare à Nuremberg. Un véritable et énorme règlement de compte. La véritable partie plaignante à la barre, c'est la civilisation. Robert Jackson, procureur venu des États-Unis, lance les hostilités avec une phrase qui entre dans la légende sans contestation aucune. À l'aise dans un costume noir, un mouchoir à carreaux en soie dans la poche de sa veste, l'homme est connu comme le loup blanc au pays de l'oncle Sam. Il fait partie des élus chargés de rendre la justice. Le premier procès pénal international démarre et lui, sereinement, étale ses notes sur le pupitre. Tout le monde attend l'un des moments qui va faire basculer le procès dans une toute autre ambiance. La première entrée des accusés dans le box qui leur est réservé. Oh, cela ne tarde pas. Sous un crépitement de flashs et de murmures de toute l'assistance, ils sont 24 mis en état d'accusation. Mais 3 manquent à l'appel. Le courage les a quittés au plus décisif des moments. Dans leur faiblesse et leur lâcheté, Himmler, Goebbels et surtout Hitler lui-même ont choisi la voie du suicide plutôt que celle de la confrontation. Reste donc 21 accusés parmi les plus importants du régime nazi qui entrent dans la salle. Les visages sont fermés. Certains portent des lunettes, de peur peut-être d'avoir à soutenir les regards. Robert Jackson égrène les noms de ceux qui se présentent à la face de ce tribunal du monde. Hermann Göring, commandant de la Luftwaffe, ministre de l'air et ministre-président de Prusse. Rudolf Hess, successeur désigné d'Hitler. Joachim von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères. Wilhelm Keitel, chef du commandement suprême de la Wehrmacht. Ernst Kaltenbrunner, chef du bureau central pour la sécurité du Reich. Albert Speer, architecte et ministre de l'armement. Alfred Jodl, chef de l'état-major de la Wehrmacht. Alfred Rosenberg, ministre des territoires occupés de l'Est. Karl Dönitz, commandant en chef de la Kriegsmarine. Et quelques autres aussi. Bon, la liste est longue. Les méfaits, plus encore. Depuis toujours, lorsqu'il est en état de stress ou qu'il cherche à dissimuler ses émotions, Robert Jackson est trahi par un geste. Il passe sa main dans ses cheveux en les ramenant vers l'arrière de son crâne. Il ne se rend pas compte qu'il vient de le faire plusieurs fois en l'espace de quelques minutes seulement. Face à lui, les plus grands criminels du monde et son boulot, comme celui de ses collègues, dans le même état à ses côtés, va être de les faire assumer La première des épreuves pénibles est celle du défilé des horreurs. Chaque accusé doit se lever et, au micro, annoncer s'il plaide coupable ou non coupable. Or, les charges sont simples. Ils sont jugés pour, je cite, l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout autre acte inhumain commis contre toute population civile avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux. Les choses sont claires, à eux de répondre. Les uns après les autres, en commençant par le plus gros des poissons, à savoir Göring, les accusés vont tous se lever et prononcer ces deux seuls mots qui claquent dans l'air comme une insulte. Nicht schuldig, non coupable. Ah oui, non coupable, les dignitaires du régime. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Notre histoire du jour commence quelques mois avant cette journée des plus importantes pour l'histoire du nouveau monde en construction. Nous sommes le 8 août 1945. Nous retrouvons l'un de nos héros, Robert Jackson. Ce juge à la Cour suprême américaine a été désigné par le président Truman pour mener une mission de la plus haute importance, négocier avec les puissances alliées pour fonder un tribunal international chargé de juger les crimes nazis. Et c'est un Jackson au trait tiré, à l'air hagard, que nous rencontrons à Londres, capitale de la résistance européenne face au nazisme. En effet, voilà des semaines qu'il tente de mener à bien des pourparlers entre son pays, l'Angleterre, la Russie et enfin la France. Cette dernière s'est ajoutée à la table des vainqueurs tout récemment, mais elle a son mot à dire. D'un côté, l'axe anglo-américain s'est mis d'accord très vite. Très peu d'accusés, des preuves déterminantes et choquantes et une instruction centrée sur le concept de crime contre la paix. Tout en refusant d'éluder les rouages de la machine nazie, évidemment. Les Anglais, de leur côté, souhaitent au départ un procès si court qu'il ne devrait pas dépasser un mois. Mais ils finissent par accepter les réticences de Jackson à ce sujet. Ils sont ceux qui proposent aux juges les premiers noms d'accusés. Bien, de ce côté-là, les choses auront été simples. Mais lorsqu'il a fallu se mettre autour de la table avec les Français et les Soviétiques, là, ce fut une autre histoire. C'est cette partie des négociations qui fut longue, très longue. Crime contre la paix, mon œil. C'est de crimes de guerre dont il faut parler. Les Soviétiques, de plus, souhaitaient que tout ce petit monde soit jugé à Berlin-Est, sur leur terrain d'occupation, et non à Nuremberg, donc. Mais heureusement, Staline accepte finalement de se ranger aux côtés des Alliés sur ce point, entre autres. Et la France n'a d'autre choix que de faire taire ses divergences. C'est donc un homme fatigué, exténué, mais sincèrement heureux que nous retrouvons à Londres. Heureux parce qu'aujourd'hui, leurs signatures vont être couchées sur le papier. Heureux aussi parce que Jackson peut se targuer d'avoir mené à bien l'une des missions les plus difficiles de sa vie. Les dignitaires du nazisme vont pouvoir être jugés durant un procès tout à fait en normes. Alors, que les choses sérieuses commencent. Nous l'avons vu, ce sont 24 accusés qui étaient au départ assignés à comparaître. Hormis Hitler, Goebbels et Himmler, qui ont déjà rejoint les bras de la mort, trois autres dignitaires en sont exempts pour différentes causes. Un pour raison de santé, un qui a pris la fuite et le dernier, lui, qui s'est tiré une balle dans la tête. Ce sont donc 21 anciens collaborateurs d'Hitler qui sont mis en accusation. Tous se déclarant, comme nous l'avons déjà vu, non coupables, à la bonne heure. Témoins et preuves écrites vont donc se succéder et seront exposés sur une période interminable et dans une lenteur absolument déconcertante. En effet, le système de casque individuel, qui pour l'époque est particulièrement novateur, permet d'offrir à chacun une traduction simultanée dans sa langue. Ainsi, lorsque Jackson expose une preuve en la lisant, il doit s'arrêter toutes les deux phrases pour que les traducteurs puissent faire leur travail. Novateur, ok, mais particulièrement fastidieux aussi. Les préparatifs sont bientôt bouclés, les pièces sont versées au dossier et se comptent par milliers. S'ensuit la journée du 21 novembre, durant laquelle les accusés se déclarent non coupables. C'est là que Jackson et l'accusation entrent en scène et qu'ils vont, avec minutie, multiplier les coups d'éclat. Ces mots qu'il ouvre sa prise de parole, il dit « Leurs actes ont plongé le monde dans le sang et ont retardé d'un siècle la marche de la civilisation. Elles ont infligé à l'Europe toutes les tortures et toutes les violences. » Elles lui ont fait subir tous les pillages que la cruauté, la cupidité et l'insolence ont pu dicter. Elles ont mené le peuple allemand au plus bas échelon de la misère. Elles ont semé partout la haine et la violence. Voici les forces qui se trouvent sur le banc des accusés, incarnées par ces hommes-là. La véritable accusatrice est la civilisation. Dans tous nos pays, elle est toujours une idée imparfaite et qui cherche sa voie. Nous sommes le 21 novembre 1945, salle d'audience 600 à Nuremberg. C'est un juge Jackson exténué qui termine avec ces mots l'ouverture du premier procès pénal international. Sa transpiration et les ridules qui marquent son visage témoignent de son effort. Mais un rictus trahit son contentement. Cette prise de parole, attendue, devait présenter l'acte d'accusation, certes, mais surtout baliser les cadres d'action du tribunal, tout en pointant l'horreur indicible qui n'allait pas tarder à être dévoilée aux yeux du monde. C'est tout l'enjeu de ce procès, faire condamner avec justice des hommes présumés innocents mais dont l'humanité tout entière réprouve les actions. Ah, il faut dire que l'héritage qu'ils colportent est parmi les plus lourds jamais portés par un régime politique. Les années 30 furent les années du fascisme. L'Allemagne ne fut d'ailleurs pas la seule à plonger la tête la première dans ce cycle extrémiste. L'Italie de Mussolini aura été la pionnière. Pour lui non plus, pas de salut. Tout comme Hitler, il n'a pas survécu à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Non, effectivement, les grands chefs de ces régimes totalitaires ne sont pas présents à la barre des accusés. Mais cela n'empêche pas d'y retrouver de gros poissons. Le monde sort tout juste de l'horreur, et ils sont, eux, les figures de proue du bras qui asséna la mort et la désolation sur son passage. Comment ne pouvait-il pas, au cœur des arcanes du pouvoir, être au courant des projets de l'Holocauste et des armées de mort qui en découlèrent ? Auschwitz, Treblinka, Bergen-Belsen, comment ces noms pourraient-ils ne pas résonner comme des synonymes de honte et de désarroi ? La prise de parole du juge Jackson aussi permet de placer les États-Unis au cœur de l'échiquier. Et de manière très marquée, elle lance les hostilités à grands coups de tirade. Le procès de Nuremberg est une mine judiciaire totalement hallucinante. En un peu plus de 10 mois de procès tout de même, ce sont près de 100 témoins qui ont défilé à la barre. Rarement, ils auront apporté des informations que les preuves écrites n'avaient pas déjà mentionnées. Mais tout de même, leur rôle est primordial. Parce qu'ils sont la voix de tous les opprimés, de toutes les victimes d'un système aussi terrifiant que puissant. Grâce à eux, l'horreur des camps est mise au jour. Certains décrivent cette abomination en tant que gardiens ou membres du personnel. D'autres aussi viennent courageusement prendre la parole en tant que victimes. L'ensemble accable ceux qui se trouvent dans le box des accusés, comme vous pouvez l'imaginer. La plupart d'entre eux, pourtant, ne se démontent pas. Bien au contraire. Göring, notamment, ira jusqu'à témoigner pour lui-même dans son propre procès. Culotté, vous en conviendrez. Plus audacieux encore, lui, le vice-roi d'un régime en lambeaux, ira jusqu'à nier être impliqué dans les crimes les plus sordides qu'il a assurément participé à diriger. Il ne peut en être autrement. Les preuves sont là. Elles sont implacables. Et elles vont être exposées. Mais peu importe. Pour Göring, tout mène à la négation. Hitler est le seul responsable de la situation. Les choses, pourtant, risquent bien de démontrer le contraire. Le réquisitoire doit poser les bases des éléments d'accusation. Ils sont si nombreux qu'il va m'être ici très difficile de tous vous les décrire avec précision. Reprenons tout de même les principaux. Écrasement de l'opposition, conquête et méthodes illégales, crimes contre la paix, ainsi que crimes de guerre et contre l'humanité, persécution collective et individuelle, Massacre de masse. Ceux de Katyn, absolument terrifiants, sont notamment particulièrement bien documentés durant le procès. Cela amène également au développement touchant au génocide de la population juive. Dès la fin de la première semaine de procès, l'horreur est abordée grâce au choc des images d'un documentaire. À propos des accusés, Joseph Kessel, présent au procès, écrira « Crispé, égaré, incrédule ou rompu, 10 visages, et derrière cela, 10 autres encore, fantastiques rangées émergeant des ténèbres, se tendaient comme magnétisés vers le mur du fond. Alors Göring, vice-roi du Troisième Reich, serra ses mâchoires livides à les rompre. Le commandant en chef Keitel se couvrit les yeux d'une main tremblante. Un rictus de peur abjecte déforma les traits de Streicher. Ribbentrop humecta de sa langue ses lèvres desséchées. Une sombre rougeur couvrit les joues de Papen. Frank, qui avait décimé la Pologne, s'effondra en sanglots. Les mois de la culpabilité, très certainement, mais ce n'est pas tout. On y développe toute l'organisation de la mort dans les camps et la logique de travail forcé. Enfin, SS, SA, Gestapo, forces d'occupation et armées régulières sont autant de sujets militaires qui sont également abordés. Comme vous pouvez le voir, l'idée principale est surtout celle de brosser tous les points. Les accusés, eux, ont de quoi être assommés par autant de thématiques qui les incriminent. Ils vont pourtant devoir se défendre. Du moins, tenter de le faire.